Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao ceux, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Mamamoo. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kiun avec la chronique du volume 3 de My Hero Academia, la chronique du volume 13 de Bright Stories et la chronique du volume 2 de King's Game Spiral. On aura ensuite un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On continuera et on terminera malheureusement à parler culture avec les secrets du saké. On aura ensuite une petite actualité au Japon avec la mairie de Tokyo qui délivre ses premiers certificats d'union de même sexe. Et on finira donc l'émission avec une petite news musicale concernant donc Chen du groupe EXO qui offrira donc sa dernière scène. On va s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est Oshifuru Yozorae de Zipper et on reviendra juste après pour la présentation du groupe Mamamoo.
Hikari no nai basho ni jiyū sasagetara boku no kono omoi wa todokimasu ka hitori de nakanai de kao o agete zutto soba ni iru kara chikaku yo
Yo,
Donc c'était Zipper avec la chanson Oshifuru Yozorae. On passe maintenant à la présentation du groupe Mamamoo. Donc c'est un groupe sud-coréen de ballades pop R&B qui est en activité depuis 2014. Il a débuté avec le label WA Entertainment avant de passer sous le label Rainbow Bridge World en 2015 et également Victor à partir de 2018. Il faisait également partie de l'agence Marvel Entertainment en 2017 avant de passer à l'agence Digital Adventure en 2018. Le groupe se compose de 4 membres, on a Solar qui est leader et chanteuse, Moonbyul qui est rappeuse et danseuse, Wee-in qui est chanteuse et danseuse et Wasa qui est danseuse, Maknae, rappeuse et chanteuse et elles sont toutes les 4 présentes dans le groupe depuis 2014. Le nom de leur fan club est Moomoo. Donc avant de débuter officiellement, le groupe révélera plusieurs projets musicaux afin de donner au public un aperçu de leurs capacités. Le premier, Don't Be Happy, un single en featuring avec le chanteur Bumkey, sort le 9 janvier 2014. Celui-ci est rapidement suivi par un second featuring, Peppermint Chocolate, en compagnie de K-Will. Le 30 mai, le groupe sort son troisième et dernier projet, IIAEO, qui sera cette fois épaulé par le groupe Geeks. Solar et Wee-in auront également l'occasion de faire la démonstration de leur talent en chant et en danse via de courtes vidéos disponibles sur la chaîne YouTube du groupe. Le groupe fait officiellement ses débuts le 18 juin 2014 avec le mini-album Hello. Il fait ensuite son premier comeback le 21 novembre avec le titre Pianoman. Il s'agissait au début d'une simple sortie digitale, mais face aux demandes des fans, WA Entertainment a décidé de sortir un single physique composé de 5 titres. Le 25 mars 2015, le groupe annonce un nouveau comeback avec le project single A-Hoop, dont la sortie est prévue le 2 avril. A l'instar de Gentleman, le titre a été écrit et composé par Esna. Elles ne feront la promotion de ce titre que pendant 2 semaines, un comeback plus complet étant annoncé pour le mois de mai avec un mini-album. Le groupe fera un nouveau comeback le 19 juin avec le mini-album Pink Funky et le titre M-O-A-Y-E. Puis en 2016, après la sortie très remarquée d'un single gratuit, I Miss You, le 29 janvier, les 4 filles feront leur comeback avec leur premier full album, Melting, qui sortira le 26 février. Donc côté discographie, elles ont sorti un total de 6 albums, le premier je viens de le dire, Melting, qui est sorti le 26 février 2016, et le dernier c'est WOW, la Japan Edition, qui est sorti le 29 septembre 2021. Elles ont également sorti 12 mini-albums, le premier Hello qui est sorti le 18 juin 2014 et le dernier c'est Mike On qui est sorti le 11 octobre 2022. On a également 2 best albums, I Say Mamamoo The Best qui est sorti le 15 septembre 2021 et le même album mais en version japonaise qui est sorti le 23 mars 2022. On compte aussi 2 singles, Decalcomanie, la version japonaise qui est sortie le 3 octobre 2018 et Windflower, là aussi la version japonaise, qui est sorti le 6 février 2019. On a une music card, Melting Kino Music Card qui est sorti le 1er mars 2016, 4 digital mini-albums, le premier Immortal Song Singing The Legend Shin Jung Yoon Special Part 2 qui est sorti le 16 décembre 2017 et Kingdom Final Comeback Single qui est sorti le 25 octobre 2019. Elles ont aussi sorti 38 digital singles, le premier Don't Be Happy qui est sorti le 9 janvier 2014 et Where Are We Now, la version japonaise qui est sortie le 22 septembre 2021. Elles ont participé à une compilation, la compilation de The OST qui est sortie le 14 mars 2019. Elles ont participé à 9 OST, donc les OST de Mariage, Not Dating et My Lovely Girl en 2014, Spy en 2015, ainsi que Guardian, The Lonely and Great God, Strong Woman, Do Bong Soon et Man to Man en 2017. Pour finir, elles ont interprété 7 génériques de drama, 10 songs pour My Lovely Girl, Love Lane pour Marriage Not Dating, Love pour Guardian The Lonely and the Great God, Double Trouble Couple pour Strong Woman Do Boon Song, Open Your Heart pour Man to Man, You in My Dreams pour Sweets et I Miss You pour Docteur Romantic 2. Voilà, donc on va s'écouter tout de suite 2 chansons de Mamamoo. On commence avec la chanson IIAEO en featuring avec Geeks. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 3 de My Hero Academia.
Mon 너무 신기하게 Boy you got a way of making me smile 짜증나는 나를 보내버리고 어두운 표정으로 나타나면 내게 하는 말 Turn that phone upside down 귀찮을 것 같은데도 나도 모르게 I'm falling
잠에서 깬 상태로 너의 두 눈을 봐 What else do you want me to do? 달이 환하게 비치는 너의 두 눈에 안개를 That's all I wanna do 너의 표정을 비롯해 마음까지도 포용할 수 있어 girl 남이 빠진 dope 갔던 놈들이 아냐 똑같이 보지 마라 I see what you see so come and let me holler
너만 보면
부드러운 카푸치노 거품 같아 우리 소중한 시간이 내게 너무 짧아 밀고 당기는데 유난히 서툰 날아서 비가 오는 날이 던 날이 맑은 날이 던 네가 웃고 있다면 내겐 좋은 날이 돼 내 맘을 알고 있다면 거기 서 있어 그대로 언제나 너가 내게 처음 웃어주던 그대로
hey. 너만 보면 나도 몰래 내가 웃을 땐 나도 하해 oh, 깊이 빠져서 내게 완전
It's gonna be okay, baby.
Will I hide? Bonnie and Clyde, cheese and wine, yeah.
우리 꽤 어울리는 partner. 우리 둘 사이는 아무도 못 갈라.
약속해, you never make me cry.
잠에서 깬 상태로 너의 두 눈을 봐.
잠에서 깬 상태로 너의 두 눈을 봐.
What else do you want me to do?
What else do you want me to do? 너만 보면 난 히히하에오 너만 보면
난 보면
난 기분이 좋아져 보면 난 히히하에오 너만 보면 No more sorrow
아시안 버블. découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
필요해 죄책감 말고 이해 관심 배려해
일어날 만한 건 비밀로 해줘 붉어진 눈 비비고 흘려버린 말을 담기가 어려웠지만 노력할게 많아
당연히도 아무 의미 없어 나를 망쳐버리는 마른 화살이 최고 무거워진 맘을 느껴 이젠 비틀거리는 난 어떡하니 네가 없는 난 알지
Donc c'était Mamamoo avec la chanson Reality. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de My Hero Academia. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action-comédie visculaire surnaturel qui a été écrit par Horikoshi Kohei, traduit par David Le Quéré et prépublié dans le Shonen Jump. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 36 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kiun avec pour le moment 34 tomes. Ce volume 3 est sorti le 9 juin 2016. Au prix de 6,60€. Donc le résumé de ce tome. Confronté au test d'aptitude d'Eraserhead, Deku échappe de justesse au renvoi en réussissant à concentrer le One for All dans un seul doigt au moment crucial. Dernier du classement avec une seule performance surhumaine à son actif, il compte bien tout donner pour remonter la pente. Et justement, il va avoir l'occasion de faire ses preuves puisque sa formation au métier de super-héros commence enfin. Mais l'entraînement au sauvetage tourne court lorsqu'une horde de vilains s'introduit dans le SCA afin de tuer le symbole de la paix. Disséminés dans toute la zone, les secondes A parviennent à tenir tête à l'ennemi jusqu'à l'arrivée d'All Might. Hélas, il ne lui reste plus que quelques minutes pour vaincre Brainless avant de perdre sa forme héroïque. L'entraînement de sauvetage de la seconde A vire au drame quand un groupe de vilains apparaît au cœur de l'arène, annonçant leur volonté de tuer All Might, le symbole de la paix. L'ennemi disperse les élèves tandis qu'Eraserhead tente de leur tenir tête, mais en vain. Face à cette horde de sbires menée par l'étrange individu aux mains qui lui camouflent le visage, chaque élève y met du sien et met en pratique ses talents de futur héros. Finalement, All Might arrive à la rescousse, mais il est cette fois loin de sourire, il ne lui reste en effet que peu de temps pour utiliser son alter. Dans un premier temps, la partie autour du combat contre Tomura Shigaraki prend fin à travers une confrontation décisive parvenant à apporter bon nombre de rebondissements sans toutefois trop en faire. Car si All Might est de la partie, il n'est pas au sommet de sa forme et ne peut vaincre l'adversaire seul. Les élèves de seconde A n'ont donc pas intérêt à se tourner les pouces. Et c'est exactement l'une des forces qui caractérise My Hero Academia. Tout n'est pas qu'à faire de gros pouvoirs, Kohei Horikoshi se fixe volontairement des limites dans l'utilisation des codes classiques du Neketsu, permettant alors de donner une place aux différents personnages qui contribuent à l'action. Aussi, si l'intervention de ses ennemis est arrivée assez précipitamment, cette partie semble n'avoir été qu'une introduction en vue de futurs événements, car la transition nous montre bien que des mystères planent autour de Tomura Shigaraki et de ses intentions. La bataille est donc loin d'être finie. Concernant les qualités que je viens d'évoquer, elles forgent tout le sel de ce volume. À peine un arc se termine qu'un autre commence avec la partie du championnat de Yuhei. L'auteur s'apprête à entamer une nouvelle phase classique de bon nombre de shonen d'action, celui de la compétition et des tournois. Et là aussi, le mangaka fait des merveilles, puisqu'en plus de ne pas perdre de temps en futilité comme des entraînements, celui-ci nous plonge au cœur du challenge et en profite pour décortiquer l'académie Yuhei par des facettes que nous ne connaissions pas encore, donnant davantage de possibilités pour la suite du récit. Mais surtout, c'est encore une fois le travail sur les personnages qui impressionne tant celui-ci est bien mené. Si Izuku paraît mis en avant parce qu'il trouve enfin ses ambitions dans ce volume, bien d'autres bénéficient d'une présence appuyée dans ce volet. D'une manière générale, tout le casting présenté jusqu'à présent n'est jamais oublié, mais d'autres brillent plus que d'autres, et les personnages à avoir un rôle sont nombreux, si bien que Deku n'a pas forcément l'étiquette évidente du protagoniste principal. Chacun a son background et certains le présentent dans ses chapitres, On sent alors que Kohei Horikoshi souhaite jouer avec ses élèves tout au long de la série, une qualité bien trop rare dans ce genre de titre. Enfin, si l'aspect tournoi pouvait rebuter par son allure classique, il s'avère agréablement surprenant pour le moment, puisqu'au lieu de simples combats, l'auteur présente plutôt des compétitions presque sportives où l'utilisation d'haltères sera de mise, permettant alors une dimension tactique bienvenue tant chacun exploite ses pouvoirs pour tenter de remporter la victoire. Il est fort probable que cet arc permette d'appuyer les personnages tout en jouant sur l'amélioration des compétences de chacun, mais pour l'heure, le tout est bien mené, surprenant tout en ne s'éloignant jamais trop des codes classiques, qui s'avère alors utilisé à bon escient. Voilà, donc je rappelle que la série My Hero Academia est à retrouver aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Boku no Hero Academia, c'est The Day de Porno Graffiti, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 13 de Bright Stories. Donc c'était Porno Graffiti avec la chanson The Day qui a servi de premier opening pour l'anime Boku no Hero Academia. On passe maintenant à la chronique du volume 13 de Bright Stories. Je rappelle que c'est un seinen de genre drame, histoire courte, historique, romance, tranche de vie, qui a été écrit par Mori Kaoru, traduit par Johan Leclerc et prépublié dans les Fellows, Arta et Aokishi. La version japonaise est parue aux éditions Hunter Brain avec 14 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Kiun avec 13 tomes. Ce volume 13 est sorti le 26 août 2021 au prix de 7,65€, et le volume 14 est prévu, donc pas tout de suite, puisqu'il est prévu pour le 4 mai 2023. Donc le résumé de ce tome, le groupe de Monsieur Smith poursuit son voyage et rejoint bientôt la mer d'Aral, où l'Occidental retrouve les jumelles et leurs époux. Après une brève halte au cours de laquelle il a profité de l'hospitalité des jeunes couples, le groupe reprend la route, mais il est vite confronté à ce qu'Hawkins redoutait le plus. En compagnie de son guide Ali et de son garde du corps Nikolowski, Smith poursuit son nouveau voyage d'ouest en est, bien décidé à immortaliser avec son appareil photo toutes les tribus qu'il a pu croiser. À présent, le voici de retour à Muinak, où les jumelles Leila et Leili, ainsi que leurs époux et leurs proches, se feront un plaisir de les accueillir comme il se doit. Donc retrouver les énergiques jumelles est forcément un plaisir, d'autant qu'elles se montrent toujours autant en forme pour héberger leurs invités de marque. Les deux shippies dont la vitalité et la curiosité transparaissent toujours dans leurs yeux brillants, commettent encore et toujours quelques gentilles bévues dignes d'elles, par exemple quand elles oublient à moitié de se répartir les tâches, tout comme elles conservent leur langue bien pendue, à l'image de la scène où elles se disent que Sam et Sammy ont vraiment de la chance de les avoir épousées. On s'amuse facilement en les suivant, mais certaines choses ont changé depuis leur dernière rencontre avec Smith, et forcément cela occupe aussi une partie du récit. Ainsi, l'heure est venue pour elles de faire connaissance avec Talas, la douce future épouse de l'anglais, pour un résultat agréable, et jouant un peu sur les différences de personnalité entre ses filles. Et cela aboutira même à un passage assez captivant à la mer, où l'on adorera suivre les jumelles faire découvrir à leur invité la beauté marine, dans une scène de nage où l'on sent que la dessinatrice se fait vraiment plaisir, avec notamment ses amples chevelures. Mais les changements ne concernent pas que nos héros de façon directe, la situation géopolitique en Asie centrale continue elle aussi d'évoluer, et pas forcément de façon bénéfique pour Smith et les autres. Après les moments vivants, joyeux et ravissants en compagnie des jumelles, c'est une réalité plus difficile qui continue de se profiler avec la présence toujours plus forte des Russes dans les environs, à tel point que cette présence risque désormais de considérablement mettre à mal la suite du voyage de Smith, sa sécurité n'étant plus forcément assurée. Peut-être l'aventurier photographe va-t-il alors devoir prendre une décision cruelle pour lui, et il ne croit pas si bien penser puisque le danger ne tarde pas à se montrer devant eux, la situation du pays contraignant certaines personnes à s'essayer au banditisme pour survivre. Alors quelles conséquences l'invasion russe aura-t-elle sur le voyage de Smith qui est désormais plus que compromis? Reverra-t-il un jour Amir et Karluk? Ces derniers vont-ils bien? Autant d'interrogations qui donnent de plus belle l'envie de lire la suite de la magnifique fresque de Kaoru Mori. Pour le reste, il y a toujours ce soin méticuleux sur les dessins, avec ses nombreux détails, sa mise en lumière des mœurs et de l'artisanat de l'époque, avec notamment les vêtements, la sculpture sur bois, etc. Les personnages parfaitement expressifs, les paysages allant des lieux sauvages aux habitations typiques. On comprend toujours autant pourquoi le rythme de parution de la série reste moins rapide que d'autres œuvres, tant l'artiste s'applique dans le moindre détail, afin de nous offrir un régal pour les yeux à chaque page. Voilà, donc je rappelle que Bright Stories est à retrouver aux éditions Kiun avec pour le moment donc 13 tomes de sortie. On va s'écouter la chanson Planet of the Babes de Babe Sons All Star. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
春になるまで踊りなジャパンメイドな高価なパーティーさエブリブリリナイトでジャングフィーバー俺がジャパファカスレイダンスのパンスパースターなスタンス吸い込んだ中身バツ日本産飛ぶぜ2号ちゃんネプのファレルもチャドスラエイプさんイグニッションスキル上げるまさに瞬間
100万ホーカーマン。
Yeah 行くぞビッグショー、後で聞くぞボディーブロー、はそれ聞くぞがポッチョムキンで、よし込んで仕込んでる俺のジュラル、みんながザブドンガジュバコン、タスラポンガクソコイ、いつもグッジョーエイプサンドマンザブドン。 Yo チェンサーボイス回る豪華なマイク、評価高いバイブスはローガラハイ、ハイレベルハイクオリティハイリスクハイリターンビガエプサンス、スペースシップで迎え去るの惑星、スキンシップでリンク出す娯楽性、オーサプライズ、もう企画外ビーツ博来 with サムライ、
アハンアイマンボーイケンデア、エイプドッグロープベイプバイブ、レッツゴー2号世界のホーム、ベイプサンドウィンキッド、飛び立て目指せ宇宙の果て、銀河系駆け抜け去るの惑星、エクスクルーシブ中油のどこまでもどこまで曲がってくぜ、相変わらず騒ぐの惑星、プンプンプンプンペアン、惑星ベイプの惑星から発信斬新、次寸前発禁カモフラージュ、ワオワオアメイジンなさるアベイジン、
過ぎた頃すでに覚醒、 Back again ready to rock the mic one time、 照り焼き広げるバーツ Show time、
暗殺のゾンビ酔っ払いバーベキュー、この B さん一生パーティーシューズ、アマ照り焼き B ボーイアビクル、 G さんはビクル、この大音量ハイターン飛行、 Here come the chicken、
ソード渡る時 Everybody put your hands up、 Rock the party with the number one sound、 持ってっちゃうファンキーショー見せる T E-R-I 焼き焼き焼き、
Big O Big O ニゴとイゴドレピコ、俺たちテリヤキ B-Boy、 ズッキーに畳みかけちまうビートに、初世界のヒートビートに、ベイプネプチューンテリヤキのクラブを、特大サイズサイズをジャンボ、ハイリハイリフレハイリフォア、
ハイリハイリフレ、Sound in the place to be, step into the game and never be the same. What's my name? World famous Beijing Ape, DJ Cure, make money like Nigo. Let's go.
楽しいマナー、未だまだマルワナ、ハニーメイクラスカスカナ、かなりサカサマ、未だ様々、大きなブーバーのためまざまざ。刻む浮き彫りになる泣きにしもあら、空らに入らず客地を得ず、ケネスに鳥肌立つ超のつ、リアルエイプニュースハマるネプチューン。
C'était Bape Sounds All Star avec la chanson Planet of the Bapes. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 14 novembre chez Black Box avec les volumes 1, 2 et 3 de Angel, ainsi que les volumes 0, 1, 2, 3 et 4 de Silent Mobius, la complète édition. Pour mercredi 16 novembre, on aura des sorties chez Glénat avec le volume 10 de Blue Giant Supreme, le volume 2 de Chojin X, le volume 8 de Dragon Ball SD, le volume 22 des Gouttes de Dieu Mariage. Alors on aura le coffret One Piece avec les volumes 24 à 32, donc qui réunissent l'arc Skypea. On aura ensuite le volume 7 de Parasite Reversi, le volume 2 de Printemps et Tempête qui sera le dernier tome de la série. On On aura le volume 21 de Tokyo Revengers, ainsi que pour cette même série, un coffret réunissant les volumes 1 à 4. Pour les éditions Pika, on aura la sortie du coffret avec les volumes 1 à 3 de Blue Lock. On aura le volume 12 de Blue Period, ainsi que le coffret réunissant les volumes 1 à 3. On aura le volume 12 de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, le volume 40 de Chia Yafuru, le volume 22 de Eden's Zero, le volume 10 de Freaky Girls, le volume 12 de Kaguya-sama Love is War, le volume 3 de La Cuisine des Sorciers, le coffret avec les volumes 1 à 3 de Toilet Band Anako-kun, le volume 28 de Yukyu Holder qui sera le dernier tome de la série, le volume 3 de Violence Action et le volume 1 de Your Evil Past. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 19 de Coffee and Vanilla, le volume 7 de Insomniac, le volume 4 de Our Green Birdcage, qui sera le dernier tome de la série, le volume 1 de Professional Desire et le volume 7 de 3 Yakuza pour une otaku. Aux éditions Veritoon, on aura la sortie du volume 5 de Crush of Lifetime. Aux éditions Panini, le coffret, on a même plusieurs coffrets, avec donc les volumes 1 à 6, les volumes 7 à 12, les volumes 13 à 18 et les volumes 19 à 23 de Demon Slayer. On aura également le volume 3 de From the Red Fog, le volume 5 de Lone Wolf and Cub, la réédition 2021, le volume 5 de Okami Rise, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Secret Rivers. Aux éditions Webtoon, on aura le coffret intégral de Hellbound L'Enfer. Aux éditions Nomidomi, on aura un autre coffret avec les volumes 1 à 3 de Orimiya, ainsi que la sortie du volume 7. On aura la sortie du volume 3 de Loin de moi, près de toi, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de Père et fille. Aux éditions Delcourt, on aura la sortie du volume 19 de La Rose écarlate, et aux éditions Crunchyroll, donc anciennement Kazé, on aura la sortie du volume 7 de Yakuza Réincarnation, et le volume 21 de Yokai Watch. On aura d'autres sorties ensuite pour jeudi 17 novembre, avec chez Akata le volume 3 de Ce printemps rémanent, le volume 1 de Dream in Sun, la nouvelle édition, le volume 2 de La sorcière du château au chardon, le volume 1 de Mon petit ami Genderless, on aura le volume 7 de Orange qui sera le dernier tome de la série, donc vous aurez la version avec juste le volume 7, sinon vous avez également le volume 7 avec une cale pour l'intégrale de la série, vu que ce septième tome est le dernier de la série, et vous aurez également la sortie du coffret intégral si vous n'avez pas encore commencé la série. On aura également, donc pour les éditions Akata, la sortie du volume 1 de Utsubora et aux éditions Kiun, un autre coffret intégral avec Le Cauchemar d'Innsmouth. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 18 novembre avec chez Kana le volume 1 de Boys Abyss, le volume 3 de Diamond in the Rock, donc qui sortira en édition normale et en édition collector. On aura le volume 12 de Glen Ichinose, La catastrophe de ses 16 ans, qui sera le dernier tome de la série. Le volume 12 de Shai, le volume 5 de The Elusive Samurai qui sera disponible en édition normale et en édition collector, et on aura le volume 8 de Undead Unlock. Aux éditions Meian ensuite, on aura la sortie du volume 2 de From the Children's Country qui sera le dernier tome de la série. On aura les volumes 5, 6, 7 et 8 de Karakuri Circus La Perfect Edition. On aura également les volumes 63 et 64 de Kingdom, le volume 6 de Kuma 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 Beer, le volume 4 de Nos Différences Enlacées et le volume 5 de Toho Forbidden Scrollery. Aux éditions Taifu Comics, on aura la sortie du volume 4 de In This World et la sortie du volume 3 de In This World, l'édition Collector, il s'agit d'une réédition. Aux éditions Ototo, on aura la sortie du volume 5 de La Petite Faiseuse de Livres, partie 2. Et aux éditions Noeve Crafts, on aura la sortie du volume 3 du Grimoire Écarlate et la sortie du volume 2 de The Five Star Stories. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est la chanson Vaccination de Plus Isolation. Et on reviendra juste après pour parler culture avec Les Secrets du Saké. Donc c'était plus Isolation avec la chanson Vaccination. On passe maintenant à la partie culture. On va finir de parler des secrets du saké à partir du livre de Siméon Mollard paru aux éditions Iseki Nicho. Donc la démocratisation du marché est en marche, un facteur en atteste, la production de saké japonais en dehors du Japon. Les brasseries à saké japonaises n'ont pas attendu ces dernières années pour attaquer le marché international. Donc si les premières sont apparues au début du XXe siècle, c'est principalement dans les années 70 et 80 que les plus importantes brasseries japonaises s'installent aux États-Unis. On a notamment Ozeki, Takara, Geikaikan, etc. Ces énormes brasseries qui inondent le marché occidental de saké industriel aux qualités hétéroclites ont été suivies par la suite par la création de brasseries plus artisanales mais aux qualités tout aussi diverses. En Amérique où elles foisonnent, mais aussi plus récemment en Europe avec en Norvège Nong, en Espagne Seda Liquida et en Angleterre Campai London. La France, longtemps à la traîne, a notamment vu apparaître en 2017 la première brasserie d'envergure indépendante, Les Larmes du Levant. Cette liste, très loin d'être exhaustive, s'agrandit chaque année. Donc l'idée de brasser du saké japonais ailleurs qu'au Japon peut sembler saugrenue. Brandir le spectre de la mondialisation est facile, pourtant cela va grandement contribuer au développement du saké en termes de volume, mais aussi de qualité. Alors qu'un saké industriel peut ressembler trait pour trait à ce qui se fait au Japon, quel que soit le lieu où il est produit, ce n'est pas le cas pour les sakés artisanaux. S'il est important de veiller à ne pas dénaturer ce produit pour l'adapter au goût des Occidentaux jusqu'à la caricature, ces sakés craft et internationaux ont leur mot à dire. À l'instar des whiskies japonais qui rivalisent avec les plus grands whiskies du monde grâce à leur profil atypique, ces sakés présentent des profils gustatifs et aromatiques totalement originaux. La qualité diffère grandement en fonction des brasseries, mais ils permettent au monde en général et aux japonais en particulier de découvrir d'autres facettes de cette boisson et de la revisiter. Voilà, donc c'était la dernière chronique de cette partie culture sur les secrets du saké. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est la chanson Burst du groupe Plus. Et on reviendra juste après pour la chronique du manga, du volume 2 du manga King's Game Spiral.
Take it. も聞こえてますか？使ったこの体傷つけ合うために生まれてきたんじゃない？聞こえますか？
Donc c'était le groupe Plus avec la chanson Burst. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de King's Game Spiral. Je rappelle que c'est un seinen de genre drame, mystère, vie scolaire, surnaturel qui a été écrit par Kanazawa Nobuaki, dessiné par Kuriyama Renji et prépublié dans le Every Star. La version japonaise est parue aux éditions Futabasha avec un total de 4 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kiun avec également 4 tomes. Ce volume 2 est sorti le 18 août 2016 au prix de 7,65€ et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Donc le résumé de ce tome, alors que les élèves de seconde 4 cèdent à la panique, un nouvel ordre tombe. Celle qui de Mai ou de Nana aura perdu le moins de poids en 24 heures recevra un gage. Prête à tout pour aider Nana, Natsuko tente de la soutenir tout en essayant de percer les plans de sa rivale. Hélas, c'est cette dernière qui remporte la partie. Mais le pire est encore à venir, car le 9e ordre est sans appel. Chaque élève doit tuer au moins un de ses camarades de classe. Le temps de la confiance est révolu désormais, tout le monde représente une menace. Donc la seconde 4, la classe de Natsuko Honda, est plongée dans le cauchemar du jeu du roi. Les cadavres ne cessent de s'accumuler, et le déroulement de la partie n'arrange rien puisque le prochain ordre est le plus terrible. Chaque participant doit ôter la vie d'un de ses camarades pour ne pas mourir. Si Natsuko fait partie de ceux qui ne veulent pas se soumettre, d'autres ne sont pas de cet avis et commettent sans scrupule les pires atrocités possibles. Dans la forme, ce deuxième opus du quatrième arc de la saga King's Game ne surprend pas vraiment. Le jeu de massacre est désormais lancé et on le connaît bien. Les personnages secondaires ne font pas long feu et tombent comme des mouches. Le réel suspense, ici, vient du revirement de certaines figures qui révèlent soudainement des allures de psychopathes, quand d'autres retournements de situation s'avèrent en revanche bien plus prévisibles. Ceux qui s'attendaient alors à une réelle innovation dans le cheminement de la partie peuvent être assez déçus. C'est un jeu du roi très classique qui se présente à nous, un jeu où l'on sait que les personnages principaux survivront au moins jusqu'aux phases finales. Pourtant, King's Game Spiral présente un certain intérêt dans son ambition à présenter le personnage de Natsuko Honda. On la connaissait sadique dans King's Game Extreme, le second arc, mais c'est ici une demoiselle différente que l'on découvre. Évidemment, on sait d'ores et déjà que c'est le déroulement du jeu qui aura raison de son humanité, mais ici, le traitement de l'héroïne s'avère tout à fait plaisant. Plutôt que de pousser soudainement à la folie le personnage, l'intrigue l'a fait évoluer au compte-gouttes et le développement de sa personnalité se ressent déjà ici, dans ses interactions avec Kentaro, dont le caractère idéaliste n'est pas sans rappeler celui de Nobuaki. On note donc une certaine subtilité dans l'écriture de la demoiselle, ainsi que différents parallèles avec les précédentes séries de la saga, qui justifient bien et bien le sous-titre de cette quatrième phase, une spirale infernale causée par le jeu du roi. Notons aussi que la patte graphique de Renji Kuriyama que nous avons déjà connue dans la série King's Game Extreme cherche ici le même effet que précédemment. Le mangaka veut dépeindre l'horreur par la représentation de la folie des personnages, un domaine où il réussit assez bien puisque ses figures dérangent assez souvent, même si l'auteur a tendance à trop en faire et rend ainsi certaines personnalités assez peu crédibles. Finalement, le grand défaut de cet arc revient au manque de surprise de son scénario. En dehors de ça, ce second opus présente de bons éléments dans l'écriture de Natsuko Honda, ainsi qu'une patte graphique vraiment percutante. Désormais, on se demande si cette quatrième série a pour seule ambition de présenter le développement de l'héroïne, et aussi antagoniste du second arc, ou si sa finalité apportera un réel plus à l'ensemble. Voilà, donc je rappelle que King's Game Spiral est à retrouver en 4 tomes aux éditions Kiun. On va s'écouter tout de suite la chanson Lost Paradise de Pyle, qui a servi de premier ending pour l'animé Osama Game The Animation, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon. C'était Pyle avec la chanson Lost Paradise qui a servi de premier ending pour l'animé Osama Game The Animation. On passe maintenant à l'actualité au Japon avec la mairie de Tokyo qui délivre ses premiers certificats d'union de même sexe. Le document permet aux couples homosexuels d'être traités comme des personnes mariées pour certains services publics, dans le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe. Le Japon franchit un nouveau pas vers la reconnaissance des couples homosexuels. La mairie de Tokyo a en effet remis, mardi 1er novembre, ses premiers certificats d'union à des personnes de même sexe qui vivent ou travaillent dans la capitale japonaise. Une mesure attendue depuis longtemps dans l'archipel, le seul pays du G7 à ne pas reconnaître les unions de même sexe, sa constitution disposant que le mariage ne peut avoir lieu qu'avec le consentement mutuel des deux sexes. Les certificats de la ville de Tokyo permettent donc aux partenaires LGBTQ+, d'être traités comme des couples mariés pour certains services publics liés au logement, à la santé ou à la protection sociale. La mairie d'arrondissement de Shibuya, un quartier branché de Tokyo, a été la première au Japon à proposer un tel certificat en 2015. Plus de 200 municipalités ou autorités locales ont suivi depuis. Ces certificats sont loin de conférer les mêmes droits qu'un mariage légal, mais le nouveau statut proposé par la mairie de Tokyo représente néanmoins un progrès pour Miki et Cathy, deux femmes qui pendant longtemps n'ont disposé d'aucune attestation officielle de leur vie commune. Donc je cite, « Ma plus grande crainte était que nous soyons traités comme si nous étions étrangères l'une à l'autre en cas d'urgence », explique à l'agence France Presse Miki, une japonaise de 36 ans, aux côtés de sa petite amie américaine Cathy, 31 ans. Sans certificat, chacune avait l'habitude de glisser une note dans son portefeuille avec les coordonnées de l'autre au cas où. En date du 28 octobre, 137 couples avaient déjà demandé un certificat d'union, a déclaré la semaine dernière Yoriko Koike, la gouverneure de Tokyo. Les espoirs sont grands que la délivrance de tels certificats, qui s'appliquent à la fois aux résidents de Tokyo et aux personnes vivant en banlieue mais travaillant dans la capitale, aidera à lutter contre la discrimination anti-LGBTQ+, au Japon. Ces dernières années, le Japon, dirigé par un parti de droite conservatrice, a fait de petits pas en vue de l'acceptation de la diversité sexuelle. Un sondage réalisé en 2021 par la télévision publique NHK a montré que 57% des personnes interrogées étaient favorables au mariage homosexuel, alors que 37% y étaient opposés. Mais le chemin s'annonce encore long sur le plan juridique. En juin dernier, un tribunal d'Osaka à l'ouest a débouté trois couples de même sexe qui avaient porté plainte contre l'État, jugeant que la non-reconnaissance du mariage gay n'était pas contraire à la Constitution. A l'inverse, en 2021, un tribunal de Sapporo dans le Nord avait lui estimé que la situation actuelle violait le droit à l'égalité qui est d'ailleurs garanti par la Constitution. Voilà, donc du coup on va pouvoir s'écouter une autre chanson tout de suite, c'est Zodai Gomi de Antiféminisme, et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale.
I'm not sure.
Donc c'était Antiféminisme avec la chanson Zodai Gomi. On va maintenant finir l'émission avec une petite news musicale. Donc 3 ans après son dernier mini-album, Chen fait son retour avec le mini-album Last Scene, ce 14 novembre. Initialement prévu pour le 31 octobre, la sortie du CD avait été repoussée suite au drame d'Itaewon pour respecter la période de deuil national. Dans le clip, on peut retrouver l'acteur de Squid Game, Park Hae-soo, qui porte à l'image les émotions transmises par la voix de Chen. Voilà, donc du coup on va pouvoir s'écouter la chanson Last Scene de Chen pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon ça sera lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
점점 사라지고